La première, podcast. Semences de curieux. Jacques Olivier.
Bonjour. Le 16 avril 1955, sur papier à en tête de la faculté des lettres de l'Université de Paris, le professeur de philologie latine Jacques Perret répondait à une sollicitation de la filiale française de la société IBM qui souhaitait trouver un équivalent français au terme anglo-saxon de « computer ». Jacques Perret écrivait alors ceci. « Cher monsieur, que diriez-vous d'ordinateur ?» C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe, ordiner, à un nom d'action, ordination. L'inconvénient est que ordination désigne une cérémonie religieuse, mais les deux champs de signification, religion et comptabilité, sont si éloignés, et la cérémonie d'ordination connue, je crois, de si peu de personnes, que l'inconvénient est peut-être mineur. D'ailleurs, votre machine serait ordinateur et non ordination, et ce mot est tout à fait sorti de l'usage théologique. À quoi, en 2006, le spécialiste des systèmes informatiques français également, Michel Vol, répondait en disant ceci. Ordinateur est un mot élégant, mais c'est un faux ami peut-être plus dangereux encore que computer. L'ordinateur met-il vos affaires en ordre? Certes non. C'est vous qui devez les mettre en ordre si vous le souhaitez. Et si vous n'y prenez pas garde, un désordre inouï se créera dans vos dossiers électroniques. L'ordre ne peut venir que de l'opérateur humain, non de la machine. Pour Michel Vol toujours, l'ordinateur c'est essentiellement un automate programmable. Pour indiquer que cet automate est accessible depuis n'importe quel poste de travail en réseau, il faut ajouter l'adjectif « doué d'ubiquité ». Si nous avons, nous dit-il, à l'esprit l'expression « automate programmable doué d'ubiquité » chaque fois que nous prononcerons ou entendrons le mot « ordinateur », nous ne ferons pas d'erreur. Encore faut-il bien sûr s'entendre sur le sens à donner à l'expression « automate programmable ». Un automate, c'est une machine qui accomplit exactement et dans l'ordre les opérations pour lesquelles elle a été conçue. La liste de ces opérations n'est pas nécessairement écrite sous la forme d'un programme, elle peut résulter de l'enchaînement d'une série d'actions mécaniques. Le canard digérateur de Vaucanson en 1739 savait picorer des grains de maïs, les broyer, les mêler à de l'eau et les rejeter. Il imitait ainsi le vrai canard qui mange et rejette des excréments sans bien sûr lui ressembler en rien du point de vue de l'anatomie. Le métier jacquard en 1801 est un automate qui obéit à un programme inscrit sur un carton perforé, mais il ne sait accomplir qu'un type d'opération, le tissage. Il a fallu un étonnant effort d'abstraction pour oser mettre entre parenthèses toute application possible et concevoir l'automate pur et absolu, construit pour obéir à tout type de programme et commander à d'autres machines l'exécution des opérations les plus diverses. Cet automate absolu, c'est l'ordinateur. Il est essentiellement programmable. On peut l'utiliser pour faire du traitement de texte, du dessin, du calcul, de la musique. Il est incorporé dans les équipements électromécaniques les plus divers. Le programme se substitue de façon économiquement efficace aux engrenages et ressorts auparavant nécessaires pour commander mécaniquement l'exécution d'une série d'actions. La diversification que procure à l'ordinateur son caractère programmable ne doit pas faire oublier qu'il s'agit d'un automate. Il exécute les instructions dans l'ordre où elles lui ont été données et, contrairement à l'être humain, il est insensible aux connotations. Ce qui lui confère à la fois une grande précision et une extrême raideur. Fin de citation. Alors, finalement, pour un automate absolu, l'ordinateur, dans sa dimension théologique, n'est-il pas bien nommé ? L'ordinateur, tout le monde le reconnaît, n'aurait pas existé, en tout cas pas de si tôt, sans les travaux d'un savant anglais dont on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance, Alan Turing. Nous reviendrons ultérieurement sur son parcours professionnel et personnel qui le mérite largement, mais à l'occasion de cet anniversaire, nous allons, vous l'avez compris, nous pencher sur l'informatique et pour cela remonter le fil d'une très longue histoire, celle des automates précisément, dont Marie Dudekem-Gevers, aux fondations universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, est une spécialiste. Nous l'avons rencontrée. On se lance dans une très longue histoire. Je dirais parce que c'est aussi vieux que l'envie de copier la nature, copier l'être humain peut-être aussi au travers des machines. Mais ça remonte à des millénaires.
Ça remonte à des millénaires. C'est un rêve qui avait déjà du temps d'Homère.
Et peut-être même avant lui, probablement. On n'a peut-être
pas
la trace.
On a des traces de l'époque d'Homère, oui. Donc il rêvait déjà, si vous regardez l'Iliade, on parle du tabouret d'Héphaïstos qui amenait directement au banquet des dieux et des portes. On imagine des portes du temple qui s'ouvraient toutes seules. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que les mécaniciens d'Alexandrie ont réalisées, des portes de temple qui s'ouvraient toutes seules.
C'est ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie.
C'est ça, au troisième siècle.
Au troisième siècle avant et jusqu'au premier siècle après, parce que Héron d'Alexandrie est encore présent
bien
à ce
sûr.
Moment-là. Qu'est-ce qu'on y fait au fond? Qu'est-ce
Mais
que
donc,
c'est ces
d'abord,
automates?
D'abord, on commence par inventer la programmation. Il faudra que je vous explique. C'est un des mécanismes qui permet de réaliser des automates. Et on fabrique aussi des pièces permettant l'automatisme, comme des roues à dents, roues dentées. Et les dents avaient une forme bien particulière. Très probablement, chez les mécaniciens d'Alexandrie, elles avaient une forme de triangle équilatéral, semble-t-il. Et puis, ils inventent les leviers et autres moyens de transmission entre les roues. Avec ça, donc effectivement, ils fabriquent des automates, mais dans le cadre religieux et du théâtre, mais les deux vont ensemble, comme vous le savez. Et donc, ils réalisent des choses qui sont importantes pour eux. Par exemple, un chariot qui peut se mobiliser et aller d'avant en arrière grâce à un jeu. C'est difficile à expliquer, il faudrait un dessin. Grâce à un jeu de cordes qui est enroulé sur un essieu et dans un parcours bien particulier qui contourne certains picots. Cette corde est également collée avec de la cire et en se déroulant, elle fait que le chariot va d'abord en avant puis en arrière, par exemple. Et sur ce chariot, il y a tous des personnages qui font partie du théâtre. Enfin, voilà le genre de choses qu'ils font. Et de même, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment en utilisant également un système de treuil, de cordes, toutes sortes de raffinements comme ça. Mais ça n'a jamais eu d'impact économique, bien évidemment. C'était dans un cadre religieux.
Oui, et ça n'a c'était pas... une démonstration de savoir-faire, probablement.
Peut-être des démonstrations de savoir-faire, oui.
Puis c'est spectaculaire en
c'était
soi.
C'était spectaculaire, voilà.
Hein, c'est spectaculaire en soi. Oui d'ailleurs, peut-être difficilement s'expliquer la fascination que ça peut exercer sur nous. Hein, ces choses qui vont toutes seules, quoi. C'est ça l'automate. Hein,
oui, c'est ça. Ça se meut tout seul.
Ça se meut de soi, comme disait
Descartes. Une fois que c'est déclenché, le processus s'achève de lui-même.
Un système qui se meut de soi, disait Descartes.
Voilà.
Ça fascine.
Disait Descartes, et c'est d'ailleurs l'étymologie du mot, hein, automatos.
Mmh. Ça nous renvoie au grec encore.
Ça nous renvoie au grec.
Fut-il
égyptien. Ils sont partout. Oui.
Bon, on va en rester là, apparemment, pendant quand même pas mal de siècles.
Oui, parce que, par exemple, ils n'ont pas inventé, semble-t-il, la régulation. C'est l'autre principe de fonctionnement d'automatisme. La régulation impliquant une simultanéité par rapport au processus régulé, tandis que la programmation indique une antériorité par rapport au processus programmé, c'est-à-dire que quand on programme quelque chose, et de nouveau regardons l'étymologie, donc pro c'est avant, graphein c'est écrire, donc on a mis sur un support matériel, par un artifice quelconque, une séquence d'actions que l'on veut voir faire par une machine. Voilà, le mot programmation implique bien une antériorité. C'est le principe le plus important qui intervient dans l'automatisme, celui qui va intervenir de façon la plus importante pour l'ordinateur. Mais la régulation, qui a probablement été inventée par les Arabes, Donc après qu'il se soit emparé du savoir des mécaniciens d'Alexandrie et qu'il l'ait fait fructifier, donc cette régulation intervient, vous allez le voir aussi, au niveau des ordinateurs, dans la mesure où, je vous donne tout de suite l'exemple, un ordinateur implique le fait de pouvoir réaliser un branchement conditionnel. Un branchement conditionnel, ça veut dire la réalisation de la formule « si tel résultat est atteint, alors il faut faire telle action ». Autrement dit, la machine, sur base d'un résultat qu'elle va engranger, va être capable de prendre elle-même une décision. Et ça, c'est de la régulation, puisque ça se passe en cours de processus de réalisation de l'automatisme, si je puis dire.
C'est ça. Donc, par la différence avec le programme, qui est antérieur, voilà. C'est simultané. Hein,
c'est exactement ça.
C'est
exactement ça, oui.
Les notions fondamentales.
C'est
quoi,
ça. Et ça, c'est donc les deux grands principes qui permettent de réaliser un automatisme. Donc, programmation et régulation. Je suis contente qu'on commence par mettre les...
Ça, c'est votre grille principale d'analyse hein, de tout ce qu'on va faire.
Exactement. Et elle est plaisante dans la mesure où elle permet à la fois de définir tout automate et également, elle permet de caractériser l'évolution historique de l'automatisme grâce à son utilisation. Mais c'est vrai aussi qu'il faut pour ça un peu spécifier davantage la typologie de la programmation. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que soit le programme est fixé et jamais changé dans un automate, soit il peut être modifié manuellement, soit il va être modifiable par la machine. Et vous devinez, ce dernier cas de figure, c'est le cas de l'ordinateur. C'est un formidable changement. Mais permettez-moi de revenir au programme fixé, parce qu'ils sont de deux natures. En fait, soit ils sont concentrés à un endroit donné, et je vais les appeler centralisés.
Vous pouvez en donner un exemple ?
Un exemple, oui, mais le problème, c'est que les dessins aideraient beaucoup pour expliquer ça. Oui, par exemple, le chaperon qui permet de égrener les heures dans une sonnerie horaire. Donc le fait de sonner un coup quand il est une heure, deux coups quand il est deux heures, et ainsi de suite. Eh bien, la pièce maîtresse qui permet ça, c'est une roue dentée, mais dont les dents sont très particulières. C'est plutôt un bossage qu'une dent, mais dent est un terme générique, hein, vous le comprenez. Et en fait, la largeur du bossage est proportionnelle au nombre de coups, vous avez tout compris. Et là, vous comprenez bien que c'est un programme figé, on ne va pas le changer du tout. Une fois que c'est fait, c'est une fois pour toutes. C'est un programme figé et centralisé, et ça a été inventé d'ailleurs au XIVe siècle, probablement dans les villes italiennes. Et cette invention a été considérée comme géniale à l'époque, alors que l'invention des horloges mécaniques qui date du XIIIe siècle, alors qu'elle est géniale pour nous, à notre époque considérée comme absolument géniale, est passée complètement inaperçue. Elle est géniale parce qu'en fait, on va passer du compte du temps à partir d'un écoulement continu, qui était par exemple un écoulement d'eau, classiquement, au fait de discrétiser le temps et de compter des unités de temps. Parce que ce que va faire la pièce maîtresse dans le cœur de l'horloge, donc c'est l'échappement, il va, je ne peux pas dire autrement, discrétiser le temps, transformer le temps en une succession de battements qu'on va compter. Et c'est ça qui va nous servir à mesurer le temps, et ça change tout.
Oui, on avait un mouvement, une espèce de flux continu qui est remplacé par une oscillation.
Voilà, c'est exactement
un rythme,
ça. C'est exactement ça.
Qui est, d'une certaine manière, le contraire de la continuité.
C'est exactement ça. Et ce qui est étonnant et qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est de comprendre les à côté de la science, parce qu'à l'époque, c'était passé tellement inaperçu qu'on n'a même pas changé de nom de l'appareil. On continue à parler d'horloge, on ne fait pas la différence. Ça ne passe pas dans les textes. Et ce n'est pas du tout décrit à l'époque comme... On ne sait même pas où ça s'est passé. Probablement que ça s'est passé dans plusieurs monastères simultanément. C'est une invention des moines, très probablement.
Oui, parce que bon, ils devaient rythmer leurs heures
indispensable, aussi, hein. Parce que, si vous me permettez une anecdote, mais c'est vraiment fondamental. J'ai parlé avec dans un monastère bénédictin, j'ai fait cette même petite conférence, et il me disait que la responsabilité de l'heure incombait à l'abbé lui-même, parce qu'il était fondamental de commencer sa journée à la bonne heure, parce que tout était dicté par la règle de Saint-Benoît après cela, et que si on terminait trop tard, on ne pouvait pas manger. C'est-à-dire qu'on ne pouvait manger que quand il faisait clair, et si on calculait mal, on terminait sa journée trop tard et on se passait tout simplement de manger.
Oui, donc c'est pour vous dire... Ce n'est pas le bonheur des moines, évidemment.
Donc c'est fondamental. Je vous ai dit, les programmes fixes peuvent être centralisés, mais ils peuvent aussi être distribués dans la machine. Et là, le premier exemple que je vous donne, mais de nouveau, ça mériterait un petit dessin, c'est par exemple la machine de Pascal, la machine à calculer de Pascal, où entre les roues dentées, il y a des reporteurs qui permettent de transférer un mouvement d'une roue à droite vers la roue, exactement à gauche.
Faire un report, quoi.
Faire un report de retenue. Et là, vous comprenez qu'entre chaque roue dentée, il y a ce reporteur. Et c'est aussi une sorte de programmation et qui est distribuée sur toute la largeur de la machine de Pascal. Donc, vous voyez, les reporteurs peuvent être considérés comme une programmation fixe. On ne les change pas, mais distribuée dans toute la machine.
Mmh. Oui, oui. Donc, il faut quand même qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par programme. Hein.
Il faut qu'on s'entende.
En fait, c'est une suite d'actions. On pourrait le dire comme ça.
Le programme... Attendez, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le programme tel qu'il est conçu par l'homme et le programme tel qu'il est compris par la machine. Et généralement, on appelle programme... D'abord, il y a une confusion, parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a deux plans qui sont très différents.
Oui, mais on parle de langage dans deux sens différents aussi. On parle volontiers de langage machine aussi, d'ailleurs, pour bien spécifier que ce n'est pas exactement la même langue.
Mais le langage machine, c'est un mot très précis pour les informaticiens. Le langage machine apparaît uniquement avec l'ordinateur à partir du moment où le programme est enregistré en mémoire centrale quand il s'exécute. Mais ça, je ne suis pas encore prêt de vous le raconter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Non, mais ça indique quand même bien que, y compris pour l'ordinateur, mais c'était probablement valable pour les automates aussi, entre ce qu'on imagine et le moyen de le traduire pour la machine...
C'est des choses totalement différentes.
Hein.
Mais regroupées facilement sous le même vocable dans des articles qui ne sont pas vraiment très spécialisés, vous voyez ?
Oui, oui, il suffit de programmer et voilà.
Il y a deux choses là en dessous. Mm-hmm. Mais de toute façon, c'est chaque fois, ce qu'ils ont en commun, c'est que ça, c'est quelque chose qui est prévu à l'avance. Un séquencement prévu à l'avance, voilà, c'est ça.
Donc c'est une suite d'actions prévues à l'avance, hein, on pourrait
d'actions,
dire comme ça.
Voilà. D'actions,
oui, ou de
au
mouvement,
sens large.
Hein,
c'est une action,
oui.
Au sens large. Ou d'instruction. Voilà, le mot séquencement est fondamental. Suite ordonnée.
Suite ordonnée, hein, parce que je veux dire que ça nous amène à un autre mot qu'on utilisera peut-être un peu plus tard, qui est celui d'algorithme.
C'est ça.
Où on retrouve aussi cette suite ordonnée.
Exactement.
Hein, d'opérations.
Exactement.
Et ça, une suite finie, en plus, en principe.
Hein, oui, je laisserai aux mathématiciens le soin de parler de la finitude.
De préférence. Mais bon, il reste aussi quand même encore un troisième type de programme. C'est celui que vous appelez enregistré, cette fois-ci. Vous y faisiez peut-être allusion un peu avec l'ordinateur.
Justement, vous voyez là, il y a une confusion de nouveau, parce que les mots français ne sont pas assez précis. Tous les programmes sont enregistrés. Tous.
Oui, en quelque sorte.
Non, pas en quelque sorte. C'est justement ça que je raconte et que les gens, si vous voulez, c'est le piège. Et quand on dit le programme est enregistré tout court, c'est parce que ça traduit du français « stored program computer », mais en français, on devrait dire « enregistré en mémoire centrale ». Ça, c'est une spécificité de l'ordinateur. Mais enregistré tout court, non. Toute programmation implique un enregistrement.
Oui, mais donc tout automate implique une sorte de mémoire.
Exactement, nous sommes d'accord. C'est bien ça. Mais ça, donc vous voyez, c'est parce que nous sommes précis. Mm-hmm. Mais des articles de vulgarisation ne vous le diront pas.
Oui. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte, alors simplement en évoquant ces quelques mots-là, qu'après tout, l'ordinateur est bien dans la filière et dans la foulée de toutes ces machines automatiques.
Exactement, hein. Et je prétends que pour vraiment comprendre ce qu'est un ordinateur, en fait, il faut connaître, il faut faire l'histoire de l'automatisme, comme nous le faisons pour le moment. Alors on réalise vraiment quel est le plus, parce que nous n'en avons pas encore parlé, mais on y arrivera, quel est le plus qu'il y a au fait d'avoir un programme enregistré en mémoire centrale.
Donc c'est cette idée de mémoire centrale.
Mémoire centrale, donc, oui, donc la mémoire de la machine, ça implique que nous...
Oui, on anticipe
encore.
Un peu.
On anticipe, il faut que nous parlions de Babbage, mais...
On en parlera le moment venu.
D'accord.
Alors, cette fois-ci, revenons à nos Arabes.
Qu'est-ce
qu'ils ont amélioré, alors? Qu'est-ce qu'ils ont apporté?
Ils ont fait des automates pour divertir les monarques du moment, ça c'est certain. Et on a des belles représentations de cela. Donc, on voit très bien qu'ils employaient des roues avec des picots pour faire se mobiliser l'automate au sens où l'entendent les enfants, des personnages qui bougent. Et qui joue de la musique éventuellement. Et alors, dans le domaine, je pense que c'est dans le domaine de l'horlogerie, parce qu'ils ont fait de très célèbres clepsydres. Et c'est dans ce domaine-là qu'ils ont inventé la régulation. Ce n'est pas comme on le pensait, ou certains le pensent, les Grecs qui ont inventé la régulation, mais semble-t-il, les Arabes. Et en fait, il y a eu des problèmes dans la traduction des textes grecs. Et c'est comme ça qu'on a cru qu'ils avaient eux aussi pensé la régulation. Et en particulier, avec la clepsydre dite de Ctésibios, on pensait qu'il y avait un petit pointeau qui venait se ficher dans un petit cône et empêchait un niveau d'eau, une fois atteint, un récipient de se remplir. Ça, c'est de la régulation, parce que ça se passe en temps réel. Mais apparemment, c'est une mauvaise compréhension du texte. Ce genre de choses-là, ça a été inventé par les Arabes. Donc le fait d'avoir... c'est très difficile d'expliquer sans un dessin. Mais donc, si vous imaginez un récipient avec un canal qui y amène de l'eau, et que dans ce récipient, aussi lié à cette arrivée d'eau, il y a un pointeau. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Mais donc, le niveau d'eau fait se lever le pointeau qui va caler l'arrivée d'eau quand elle se trouve à un certain niveau dans le récipient. Et donc, vous voyez, ça, c'est un processus autorégulé d'une certaine façon.
C'est un peu comme la chasse d'eau ou quelque chose
c'est
du même genre.
C'est tout à fait comme la chasse d'eau. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Exactement, c'est ça. C'est la chasse d'eau. Et donc, ça, apparemment, ce sont les Arabes qui ont inventé. Voilà, donc les Arabes. Et puis après ça, donc les inventions des Arabes. Et de même que le patrimoine grec a, comme vous le savez, été traduit vers le XIIe siècle, en particulier en Espagne, de l'arabe vers le latin. Et donc les gens du Moyen-Âge ont eu accès...
Oui, on a retrouvé les Grecs, si je puis dire, via les Arabes.
Et Aristote en particulier, oui.
Il y a un autre aspect des choses, et on n'a pas encore vraiment parlé de ça jusqu'à maintenant. Il y a toujours eu l'envie de faire automatiquement du calcul. Quand vous parliez des Arabes, je pensais aux astrolabes et à ces outils extraordinaires, d'une grande précision et qui sont en même temps magnifiques, dans lesquels ils étaient passés maîtres. Et d'une certaine manière, il y a un côté automatique aussi, mais peut-être dans un autre sens.
Oui, ça, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y a...
Oui, mais je veux dire qu'il y a quand même l'idée de calcul qui est là derrière, ou en tout cas...
Oui, c'est vrai, mais là derrière, il n'y a, je pense, comme je le définis, ni régulation, ni programmation. Il n'y a pas enregistrement à l'avance d'un séquencement, vous voyez. C'est pour ça que ces mots me sont si précieux.
Mais peut-être qu'elle est dans... la tête ou dans le cerveau de celui qui l'utilise, parce qu'il y a une manière de procéder.
Oui.
On fait ses mesures, on regarde, on compare, on fait bouger telle roue, etc. Et on obtient un résultat. Donc, d'une certaine manière, le programme, il est dans l'apprentissage de celui qui l'utilise.
Oui, mais alors là, vous échappez du cadre précis.
Oui.
Justement,
Fait intervenir le cerveau humain cette fois-là.
Oui. Donc, justement.
La machine ne le fait pas toute seule.
Voilà, vous me donnez.
Non, mais je veux dire qu'il n'est pas non plus. On est à mi-chemin d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre forcément comment marche l'appareil pour s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté automatique aussi.
On est à mi-chemin,
On n'est pas obligé d'être mathématicien pour arriver à calculer la position de la planète Mars. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Ou
astronome.
Vrai.
Donc, il y a une séquence là qui devient d'une certaine manière automatique.
C'est vrai, aussi. Mais alors, je peux vous renvoyer la balle avec deux autres exemples. C'est l'invention qui est encore bien antérieure aux Égyptiens, parce que je pense que là, ça a été fait à Sumer. Du cadran solaire. Là, le séquencement, c'est le passage du soleil au-dessus de la Terre. Enfin, pensait-il, on sait bien que c'est le contraire qui se passe, mais je veux dire, qui était enregistré par une ombre qui se déplaçait. Ça peut être vu comme un séquencement. Et ça nous permet de comprendre, d'ailleurs, pourquoi, parce que ces appareils qui étaient plus primitifs, en fait, ils divisaient la période de clarté en 12. Et ça me permet d'expliquer pourquoi, à partir des anciens, en fait, les heures étaient de durée inégale. Parce qu'on prenait la période de clarté comme 12 heures et qu'on la divisait en 12, que ce soit l'hiver comme l'été. Alors, dans nos régions, vous imaginez bien que
très courtes en hiver et des heures très longues en été.
Mais donc, ça a été très difficile à réaliser avec des clepsydres, des heures de durée inégale. À partir des horloges mécaniques, il n'y a plus été question d'heures inégales parce que c'était impossible à faire avec la mécanique de rouage. Et donc là, on est passé au Moyen-Âge et ça a été un changement majeur de l'histoire du Moyen-Âge. On est passé aux heures égales. Ça me fait penser à autre chose aussi. Ça me fait penser à la préhistoire parce qu'on a des dessins sur les parois de grottes où on voit des mammouths. Ou en tout cas un mammouth avec un quadrillage dessus qui pourrait être le dessin d'un piège. C'est une des interprétations possibles de ce tectiforme. Mais en fait, alors on peut se dire qu'un piège à mammouth, eh bien, il a été conçu par l'homme. Donc il a mis un échafaudage de bois ou peut-être ne serait-ce que par terre, sur un trou, il a mis des bois tels que quand le mammouth va marcher dessus, il va tomber dans le trou. Eh bien donc là, il a anticipé aussi une certaine façon un automatisme puisqu'il sait bien la suite des événements qui va se passer dès que l'animal aura déclenché le piège. Mais par ailleurs, il n'y a pas de mémorisation. Ça m'aide pour vous faire comprendre l'importance du fait qu'il y a toujours une mémoire dans la programmation, c'est que chaque fois qu'il va devoir refaire son piège, il doit recommencer à remettre ses branchages de la même façon. La machine n'enregistre pas comment ça doit être fait. C'est la grande différence avec la véritable programmation et l'automatisme tel que je l'entends moi. Donc c'est le début du chemin, si vous voulez, vers l'automatisme. Mais ce n'est pas réellement l'automatisme qui implique une mémoire.
Oui, c'est ça. Bon, et l'autre aspect qui montre tout simplement que ce n'est pas automatique dans le sens où la machine ne le fait pas elle-même.
Voilà.
Elle ne le fait pas toute seule.
Mais une fois déclenché, il y a quelque chose d'automatique
oui.
qui se passe. Mais qu'il faut reprogrammer à chaque coup, si je puis dire.
Oui.
La machine ne retient pas ce qu'il faut faire. Tandis que dans le véritable automatisme, la machine le retient. Et c'est ça la différence. Donc on peut la faire rejouer autant de fois qu'on veut. Elle a son programme et elle le fera.
Mais ceci dit, ce qui nous complique peut-être les choses aussi, c'est la façon d'exprimer tout ça. Parce que quand on dit « la machine retient »,
Oui,
c'est vrai, et en même temps, on l'anthropomorphise peut-être un peu beaucoup en disant ça.
Alors,
la machine le retient.
Oui et non. Parce que c'est vraiment ce qui se passe, mais justement, le mot mémoire, ça c'est un mot qui a été employé justement pour une machine depuis les années 48, quelque chose comme ça, en particulier avec Norbert Wiener. Avant ça, si on parle du vocabulaire utilisé par Babbage pour faire la même chose, il parlait de magasin, de stockage, storage. Vous avez raison, le mot mémoire est un mot anthropomorphe,
Parce qu'on en est venu à parler de cerveau électronique aussi.
Enfin, exactement, bon, c'est la même époque.
C'est la même époque.
C'est la même époque.
Donc, oui, mais donc il faut peut-être remettre les choses en place. On n'en parlait pas comme ça.
On n'en parlait pas comme ça. Mais disons quand même, stocker l'information. Alors oui.
Oui, mais nous revoilà avec une autre notion fondamentale qui est celle d'information aussi.
Oui.
Hein, aussi un concept assez moderne.
Un concept moderne, mais je ne vois pas comment dire autrement. Mm-hmm.
Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, un des grands moments, c'est évidemment ces carillons.
Les carillons. Ah oui, les carillons.
Ça, c'est quand même quelque chose. Les carillons. Parce que d'abord, ça frappe les oreilles, les
oui,
esprits.
Oui, et puis, c'est typiquement belge et hollandais. Hein.
Oui, on a une gloire locale dans les carillons. Là. On a l'Austois.
Et pas n'importe laquelle, parce que c'est un maillon extrêmement important de l'histoire de l'automatisme et complètement méconnu. Et extrêmement important parce que c'est au niveau des carillons, très probablement, qu'on est passé d'un programme fixe à un programme modifiable manuellement. Et ça, c'est un jalon majeur dans l'histoire qui va nous conduire à l'ordinateur. Mais on ne le sait pas.
Racontez-nous, quoi. C'est Barthélemy de Cook, hein, je crois que c'est.
Eh bien, figurez-vous que non. Depuis lors.
Ah bon, ça a changé alors.
Depuis lors, j'ai approfondi ma connaissance à ce niveau-là et j'ai lu les textes d'un professeur à l'université, je pense, d'Amsterdam. En tout cas, c'est un Hollandais, le super grand spécialiste des carillons qui s'appelle Lerch. Donc j'ai revu complètement, parce que lui, c'est la personne au monde, il est mort malheureusement, mais qui connaît le mieux l'histoire des carillons. Le malheur, voyez-vous, c'est que ça touche à tellement de domaines, ces domaines sont un peu étanches les uns par rapport aux autres, et il n'y a personne qui connaît l'ensemble. Alors, bon, je n'avais pas fait connaître.
On ne s'imagine pas que l'histoire des carillons puisse être à ce point complexe.
Mais donc, le monsieur Lerch a très bien étudié les carillons et il m'a appris que ce Barthélemy de Cook, c'est une invention, en fait. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'à Alost, chez nous,
oui,
en
on
Belgique,
est au milieu du 15e siècle.
Du 15e siècle. Il y a eu une invention, mais qui ne touche pas l'automatisme, qui, au contraire, touche le clavier pour jouer manuellement du carillon. Le carillon, c'est un instrument, c'est le plus gros instrument de musique, le carillon. Effectivement, à Alost, semble-t-il, quelqu'un qui n'a pas de nom, mais qui était surnommé dans les textes du Moyen-Âge, Geck,
le fou,
ça peut vouloir dire aussi, semble-t-il, quelqu'un de qui a des idées saugrenues. Sans être
l'original.
L'original d'Alost. Et donc, apparemment, il a bien amélioré le clavier de ceux qui voulaient jouer manuellement. Mais en revanche, ça reste vrai que l'invention du picomobile pour changer la mélodie du carillon en cours d'année liturgique, ce que l'on faisait deux ou trois fois par an, est une invention majeure de l'histoire des hommes qui est complètement méconnue. Et elle s'est passée probablement au XIVe siècle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. On a un ou deux documents manuscrits où on voit des dessins montrant une implémentation de programmation. Ça peut être aussi bien d'un carillon d'ailleurs que des orgues d'église, parce qu'elles ont été aussi programmées, des orgues assez primitifs, avec des picots mobiles. Donc ça, on a des dessins, on ne sait pas si ça a été réalisé, mais on est certain que dans les années 1530, par exemple, à ce moment-là, c'était réalisé. Il y avait des picots mobiles dans des tambours, mais les tambours sont énormes. Je ne sais pas si vous avez, c'est presque de la grandeur d'un homme, un tambour de carillon. Hein. C'est énorme. Donc on ne changeait pas le tambour, on changeait des picots sur le tambour de façon à programmer
une autre mélodie. Quoi.
Donc, la mélodie, et cette fois-ci, vous avez conscience, bien évidemment, que la partition d'une mélodie, c'est un programme tel qu'il est conçu par l'homme. Et le tambour avec ses picots mobiles, c'est le programme tel qu'il est compris par la machine. Donc, pour passer de l'un à l'autre, il faut des spécialistes.
Oui, oui, il faut quelqu'un qui est capable de programmer le tambour.
Voilà, voilà. Qui n'est pas le musicien qui a programmé la séquence de son. Le compositeur de musique, je crois que même Mozart a dû composer dans ces moments où il avait peu de fortune, il a été amené à composer pour Carillon, pour programmation automatique de Carillon. J'ai entendu une lettre où il déplorait ça d'ailleurs, en disant que c'était vraiment pas de l'art, mais enfin bon, là, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, oui. Vous avez évoqué déjà donc cet aspect musical. Hein.
Oui.
On est dans le carillon. Vous parliez de l'orgue
oui.
aussi. La mécanique, l'automatisme va essayer aussi hein, de
justement
s'introduire là.
Parce que donc le domaine suivant après les carillons dont je voudrais vous parler, c'est celui des orgues automatiques. Par exemple, celui de Salzbourg qui a été réalisé en 1502 est très célèbre et il est encore actif actuellement. Il a été restauré et on peut encore aller le voir. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que justement pour faciliter ce qu'on appelle la notation des tambours de programmation, donc la notation c'est vraiment marquer, mettre le picot au bon endroit pour que la note soit la bonne note, ça s'appelle
oui,
notation.
Et dans le bon tempo aussi.
Et hein, dans le bon tempo, exactement. Eh bien, on utilisait du papier sur lequel on mettait des marques et qu'on collait sur le tambour de manière à mettre le picot au bon endroit. Et alors, justement, il est arrivé qu'en 1725, nous allons encore changer de domaine. Cette fois-ci, nous passons au métier à tisser parce que, il semble bien, en 1725, ça c'est tout à fait certain, qu'un certain Basile Bouchon a été le premier à utiliser comme support d'un programme modifiable manuellement, non plus un tambour à picot, mais du papier avec des trous permettant à des aiguilles de passer. Il semble bien que ce monsieur a pu voir la façon dont on programmait, c'est tout à fait probable, des tambours pour des orgues et qu'il s'est dit on va sauter une étape, on va utiliser directement le papier à trous pour programmer et ne plus utiliser de tambour pour la programmation. Et c'est ce qu'il a fait pour programmer les dessins cette fois-ci. Ce ne sont plus des mélodies, mais c'est une succession de traits, donc c'est un dessin, qui doivent être produits dans les étoffes. Et ça s'est passé en France, bien évidemment.
Donc, début du premier quart du 18e siècle.
1725, on connaît exactement la date, mais il n'a pas écrit. Donc, ce sont des supputations sur la façon dont les choses se sont transmises, parce qu'il n'a pas écrit pourquoi. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de faire comme ça? On ne le sait pas de sa propre voix, si je puis dire. Mmh. On imagine que c'est comme ça que ça s'est passé.
18e siècle, puisqu'on y est, restons-y un peu, c'est quand même, l'âge d'or
des automates.
Hein,
voilà.
Et des automates spectaculaires, encore
une
fois.
Des automates spectaculaires.
Hein. Mais bon, ça ramène aussi quand même à pratiquement une vision philosophique, hein, parce qu'on a Descartes qui est derrière ça, on a l'homme-machine, bon, c'est la maîtrise, bon, mais l'homme est avec une âme, mais c'est une machine avec une âme. Et on voit bien qu'on cherche, d'une certaine manière, à recopier, à reproduire ça.
Oui, mais vous ne croyez pas si bien dire, vous me donnez l'occasion de rebondir, parce que justement, à cette époque-là, alors qu'on a une maîtrise déjà grande, puisqu'on peut fabriquer des carillons, on peut fabriquer des métiers à tisser, programmer, on fabrique des horloges mécaniques, ce qui est très compliqué en fait. Et à cette époque-là, au XVIIIe siècle, on n'a pas le cran de mettre de l'intelligence vraiment de calcul dans une machine parce que ça ne se fait pas. C'est impensable de mettre l'intelligence qui est proprement humaine dans une machine.
Oui, mais on pourrait peut-être remonter un peu au-delà aussi. Déjà, faire une machine, Je veux dire, pour les doctes professeurs scolastiques, c'est une chose qu'on ne fait pas. Enfin, mettre la main à la pâte, toucher, fabriquer, c'est quelque chose. Il y a l'horloge de Dondi, par exemple. Hein, bon, c'est une prouesse technologique exceptionnelle. Mais enfin, en même temps, il se fait très mal voir parce qu'on ne prend pas la lime quand on est professeur des universités. Enfin,
oui, c'est ça. Aussi.
Hein, bon, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect que vous soulignez ici, c'est que, bon, oui, une machine reste une machine.
Oui.
Elle, en aucun cas, elle ne peut effectivement avoir d'âme ou d'intelligence. Et on y prend bien garde.
Voilà, justement.
Mais ceci dit, elle peut avoir tout le reste, hein, parce qu'il y a le canard de Vaucanson, qui est quand même un des exemples qu'on cite le plus généralement et qui est un des plus amusants.
Hein, oui, c'est vrai.
Hein, cet canard à qui on donne à manger et qui nous produit des excréments.
Oui,
quoi,
c'est vrai, c'est vrai, c'est
hein,
vrai.
Et qui bat des ailes entre les deux. Donc.
Exactement. Mais il y en a une multitude de...
Il y en a qui écrivent, enfin.
Voilà, bon, celui-là, il est particulièrement fameux pour moi.
Les Jacques Hédreau. Là,
celui-là qui se trouve en Suisse, là, il est particulièrement fameux parce qu'il me permet de vous illustrer que dès cette machine-là, par exemple, il y a plusieurs niveaux de programme, puisque cet automate-là, il peut écrire un texte, donc une séquence de lettres. Cette fois-ci, c'est toujours la notion de séquence, hein, une séquence de lettres de 20 lettres différentes que l'on peut programmer à partir d'une roue à taquet dont on déplace les taquets. Chaque taquet correspond à une lettre. Donc l'homme peut programmer cette séquence-là. Mais en dessous de cette programmation qui peut être modifiée par l'homme, si je puis dire, se trouve quelque chose qui est un programme fixe, qui n'est pas modifiable, qui est une série de roues dentées, de roues camées, si vous voulez, au-dessus. Et en fait, à chaque taquet du programme extérieur correspond trois roues dentées camées, trois roues camées qui dictent la façon dont une lettre est réalisée dans les trois directions de l'espace. Donc, il y a deux niveaux de programme dans ce petit automate écrivain.
Oui, donc, mais c'est une prouesse technique.
Magnifique.
Et je pense qu'il y a une chose qu'on ne souligne peut-être pas assez, et on le verra notamment au 19e siècle aussi, quand on va se pencher un peu plus sur les machines à calculer cette fois-ci, c'est que ça met en place des appareils, des instruments, des outils extrêmement pointu à fabriquer, à réaliser, à étudier, parce que ça marche, enfin tout ça est loin d'avoir marché du premier coup, et ça coûte très cher.
Exactement. Mais alors là, vous me donnez...
Et il y a beaucoup de machines qui finalement seront imaginées, mais pas réalisées, ou en tout cas pas abouties.
Vous en venez à Babbage.
Hein, pas encore tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même parler de Pascal avant Babbage. Mais enfin, je veux dire qu'on n'imagine pas quand même la prouesse et l'investissement à tout niveau que représentait c'est ce qui nous paraît comme des jouets aujourd'hui, hein, d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, la pascaline est bien plus simple à réaliser probablement qu'une horloge.
Oui, mais on n'est plus tout à fait déjà dans le même domaine, hein, dans les automates de cours, disait-on. Hein,
et, oui, c'est ça.
Qui, eux, quand même, étaient quand même des objets extrêmement sophistiqués.
Oui,
l'écrivain des frères Droz, là, c'est...
Exceptionnellement
c'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire.
Hein. C'est de la toute belle horlogerie, dirons-nous.
C'est les horlogers qui faisaient ça. Hein. Jacques Hédreau est encore horloger actuellement. Hein.
Nous poursuivrons cette histoire des automates en compagnie de Marie Dudekem-Gevers, des fondations universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, la semaine prochaine, en abordant un autre volet essentiel, celui des machines à calculer. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Passez une bonne soirée. À bientôt.
Retrouvez Semences de Curieux le dimanche de 17h15 à 18h.
La première.